Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Un peu plus dur, le bras de fer entre le gouvernement et la CFDT sur la réforme des retraites. Édouard Philippe dans Le Parisien, Laurent Berger dans le JDD campe sur leur position, du moins pour le moment, on le verra. Et ce sur fond également d'affaires Delevoye et de soupçons de conflits d'intérêts. Mardi, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À l'hôpital aussi, vous en parlerez avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, la philosophe Cynthia Fleury. Question donc ce matin sur la place des soins médicaux en France, notamment les inquiétudes des internes en médecine, effectivement en prévision de la grève des internes mardi prochain.
Quel avenir pour les sardines? Ce mouvement italien rassemble des milliers de personnes à chaque manifestation. Ses organisateurs se retrouvent ce matin. Plus clair, plus grand, plus moderne, le musée Ingres-Bourdelle de Montauban rouvre ses portes et c'est gratuit ce week-end. Et puis le foot et le PSG champion d'automne de Ligue 1 grâce au nul entre Marseille et Metz hier lors de la 18e journée. On y revient dans 10 minutes dans le journal des sports de Clément Comte.
France Inter.
Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Édouard Philippe, ce matin dans Le Parisien dimanche, longue interview du Premier ministre qui hausse le ton face au risque de perturbation dans les transports pendant les fêtes. La mobilisation, évidemment, contre la réforme des retraites, ce n'est pas un blocage total, nuance-t-il. Et un air de bataille ce matin dans la presse, puisque le leader de la CFDT lui pose ses conditions. Non à l'âge pivot à 64 ans. Un point, c'est tout. Il le répète, Laurent Berger, mais ne ferme pas non plus la porte à des négociations. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Alors, pour le moment, chacun campe sur ses positions, on peut dire ça?
Oui, pour l'instant, chacun fait mine de camper sur ses positions, sans donner l'impression surtout qu'il sera éventuellement capable un jour de rétro-pédaler. Donc d'un côté, vous avez le Premier ministre Édouard Philippe qui continue à expliquer qu'il veut, je cite, « inciter les gens à travailler plus longtemps. J'assume, dit-il, de dire la vérité aux gens ». Et puis de l'autre côté, vous avez le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui lui aussi reste droit dans ses bottes et qui rappelle que le retrait de l'âge d'équilibre, le fameux âge pivot, est la première des conditions pour accepter cette réforme, fermer les guillemets. Donc la situation paraît toujours, on ne peut plus coincer. En réalité, rien ne se passera avant la journée de mardi, avant la nouvelle journée de mobilisation à laquelle participera cette fois la CFDT. Et Laurent Berger appelle d'ailleurs ce matin dans les colonnes du JDD à ce qu'il y ait un maximum de militants de son syndicat. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de peser et d'obliger le gouvernement à l'écouter. Autrement dit, rien ne se passera jusqu'à mardi, mais ces deux-là se donnent déjà rendez-vous mercredi.
Et Karine, le gouvernement également est plombé par cette affaire Delevoye.
Oui, Jean-Paul Delevoye, qui a presque intégralement réécrit sa déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, il a rajouté 10 mandats qu'il avait jusque-là omis, dit-il, de mentionner, ce qui n'empêche pas le Premier ministre ce matin dans le journal Le Parisien de lui réaccorder toute sa confiance. En fait, le problème pour le gouvernement, c'est que le haut commissaire aux retraites est le seul à maîtriser si parfaitement le sujet et qu'il serait donc très compliqué de le remplacer.
Merci Karine Bécard. Et 11e jour de grève dans les transports, en gros, les mêmes prévisions de trafic à la SNCF, un TGV sur 4, un TER sur 3, un Intercité sur 10. En Ile-de-France, seules deux lignes de métro fonctionnent à la RATP aujourd'hui. Mardi, on devrait savoir quels trains vont circuler à Noël. La SNCF dévoile son plan. Si vous avez une réservation, vous serez prévenu. Mardi, nouveau jour de grève et une manifestation partout en France. Et inquiétude des commerçants, parce qu'avec les grèves et à 10 jours de Noël, maintenant, le chiffre d'affaires ne bondit pas autant que les autres années. Achats au ralenti, notamment dans les magasins de jouets. Philippe Lefebvre s'est rendu dans le plus grand de la capitale.
Il y a pas marqué s'il y a les piles ou pas.
Vu le manuel d'utilisation, je peux pas te dire pour l'instant.
Dans les rayons de poupées ou de peluches, il n'y a pas foule, quelques dizaines de clients tout au plus, qui listes à la main profitent pour choisir longuement et comparer les jouets qui se retrouveront au pied du sapin.
Cette année, on a décidé de le faire très tôt. D'habitude, on le fait la veille, mais avec les grèves, bon, on a pris un petit peu d'avance. On a pris en photo les lettres du Père Noël, voilà, et puis après, on voit en fonction de ce qu'il y a ou pas dans les magasins, et on rajoute...
Moi, j'ai pas osé prendre la voiture, j'ai pris le vélo, donc je fais des petits paquets.
Une situation qui inquiète Franck Mattet, le porte-parole de Jouet Club. Grèves et manifestations ont déjà plombé les comptes de la première chaîne française de magasins de jouets. Et signe qui ne trompe pas, les jouets aux couleurs de la Reine des Neiges se vendent moins vite et moins bien que prévu.
Au niveau des grandes agglomérations, on est en recul de 20% par rapport à l'an dernier. Et sur l'ensemble du réseau, on est en recul de 7%. On a toujours espoir de récupérer parce que le mois de décembre, c'est 30% de nos ventes annuelles. Et là, on rentre dans les très très grosses semaines.
Une période où généralement les clients achètent en moyenne pour 250 € de jouets et de jeux, des jeux de société notamment, très demandés cette année.
Philippe Lefebvre, et autre conflit, vous vous en rendez compte à l'écoute de France Inter et des autres antennes de Radio France. 20e jour de grève contre le plan d'économie et de réduction d'effectifs voulu par la direction de Radio France. Sybille Veil, la PDG, s'exprime dans le journal du dimanche. Retirer ce plan serait irresponsable, selon elle. Un plan qui prévoit notamment la suppression de 299 postes.
C'est l'une des informations de la nuit. Le sud des Philippines frappé par un séisme.
Magnitude 6,8 sur l'échelle ouverte de Richter sur la grande île de Mindanao. Pas de risque de tsunami a priori. Il est peu probable qu'il y ait des victimes et des dégâts importants, selon l'Institut américain de géophysique. Elles doivent désormais décider de leurs futures actions et de leur organisation. Les sardines, c'est le nom donné à ce mouvement spontané antifasciste né il y a un mois en Italie. Hier, des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées à Rome. Manifestation, comme à chaque fois, rythmée par le chant des résistants Bella Ciao. Et ce matin, les 160 organisateurs du mouvement venus de tout le pays se retrouvent pour la première fois dans la capitale, Bruce de Galzin.
Les sardines réveillent les consciences en Italie, selon les fondateurs, qui ne veulent se substituer ni aux associations, ni aux partis politiques. Pour Elena, 64 ans, c'est bien mieux ainsi.
Bien oui, seulement 8 mètres. On a bien vu ce qui est devenu le mouvement des 5 étoiles. Alors moi, ça me ferait peur que l'on se transforme en parti politique. Pour l'instant, on se réveille, après on verra. Il est long, notre chemin.
Les 5 étoiles sont très critiquées pour leur jeu de pouvoir, notamment. Les sardinelles assurent ne pas être la solution à tous les maux de la société italienne, mais s'opposent au simplisme du populisme. Plutôt de gauche, il n'est pas si simple de les classer politiquement, selon Matteo, qui n'a que 16 ans.
Je ne pense pas que les sardines doivent devenir un parti politique, parce que l'objectif des sardines, ce n'est pas cela, et parce qu'il y a des sensibilités politiques différentes et même de centre-droit. On ne peut pas les mettre toutes ensemble.
Les organisateurs des manifestations ne veulent de toute façon pas se presser, explique Andrea, l'un des 4 fondateurs.
Notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est d'aller trop vite. Nous avons tous besoin de temps pour nous connaître en tant que personnes. Si on ne prend pas ce temps, on ne pourra pas faire de choix qui ont du sens.
L'urgent est donc d'attendre pour un mouvement qui ne donnera pas d'intention de vote pour les prochaines élections régionales. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
En France, 2 morts dans les intempéries dans le sud-ouest et toujours 9 départements placés en vigilance orange pour des crues. 15 000 foyers seraient toujours privés d'électricité ce matin encore.
Un coup de jeune, celui du musée Ingres Bourdelle, c'est à Montauban.
Et il rouvre ses portes après 3 ans de travaux, 13 millions d'euros d'investissement, agrandi, modernisé, des œuvres plus faciles d'accès. Architectes, scénographes et conservateurs ont tout repensé de A à Z. Reportage Stéphanie Glazis.
Le musée Ingres Bourdelle était une espèce de belle endormie. Il a donc fallu non seulement enlever les toiles d'araignée, mais aussi carrément repenser le musée de fond en comble. Florence Viguier, conservateur du musée Ingres Bourdelle.
On a 4500 dessins d'Ingres, ce qui est énorme, ce qui en fait évidemment le fond le plus important de dessins conservés au monde. Et on a 44 peintures.
Au cinéma, celui qui dirige un film, c'est le réalisateur, le metteur en scène. Pour les musées, ça s'appelle un scénographe. Anne-Carle remplit cette mission et elle nous fait un bout de visite idéal.
Le joyau des joyaux, c'est Madame Gonze. Pas passer assez la Joconde d'Ingres à Montauban. Donc voilà, le Songe d'Océan, c'est le plus grand tableau du musée. Honnêtement, il ne rentrait pas en hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou, d'accord, on va faire une mezzanine, et puis comme ça, depuis en haut, on verra en bas, et de en bas, on verra en haut. Et puis ce tableau, il est lui-même composé en deux parties incroyables. Il y a la partie basse où on voit Océan en couleur, concentré, en train de songer à des choses, et son rêve est matérialisé au-dessus en noir et blanc. Et cette partie du songe, du rêve qui est en noir et blanc, on peut le voir aussi quand on est à l'étage supérieur, on le voit en plongée.
Le musée Ingres Bourdelle est donc en ébullition ce week-end à Montauban, avec notamment des acteurs au milieu des toiles, des musiciens et même accessoirement des visites commentées du musée. Cerise sur le gâteau, tout est gratuit. Montauban, Stéphanie Glazis, France Inter.
Elle est étudiante en première année de master d'histoire de l'art à la Sorbonne à Paris. Clémence Bottineau, 22 ans, Miss Guadeloupe, élue hier soir Miss France 2020. À ceux qui dénoncent un concours sexiste et rétrograde, elle répond que Miss France est là aussi pour encourager les jeunes femmes à faire ce qu'elles veulent et ce en quoi elles croient, c'est dit.
Une Miss France 2019-2020, féministe donc. C'était le journal d'Estelle Schmitt.